Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous allez nous excuser pour les retards avec lesquels nous commençons cette émission. Ce soir, nous parlons de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. En effet, dans les territoires de Lubero, des combats sont signalés depuis dimanche soir sur l'axe Kasséré entre les FRDC et le M23. Selon des sources de la société civile, les deux parties s'affrontent pour le contrôle des Mingi, le chef-lieu de la chefferie des Batangi dans le sud de Lubero. Une situation qui provoque de nouveau un déplacement massif de la population. Vendredi 28 juin, c'est la commune rurale de Kanyabayonga, située à une centaine de kilomètres de Lubero centre, qui était passée sous le contrôle des rebelles du M23. C'est après des violents combats qui ont opposé toute la journée de ce vendredi les FRDC et au M23 aux alentours de cette cité. On admet de cette occupation, donc au samedi 29 juin, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion du Conseil supérieur élargi de la défense à la cité de l'Union africaine à Kinshasa sur cette question. Tout cela intervient après le passage de la première ministre au Nord Kivu et la déclaration du président angolais selon laquelle il envisage une rencontre entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame pour une résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC. Quel est-il faire de l'évolution de cette situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Lubero? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Karline Zanzou-Kasivita, il est député national élu des Beni Territoires, il est gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir Monsieur Karline Zanzou-Kasivita.
Bonsoir.
Ici au studio également, Hervé Diakessé, il est avocat et porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Bonsoir Maître Hervé Diakessé.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir Honorable Nzanzou et bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Et en ligne, professeur Augustin Mouessi, le professeur des sciences politiques à l'université de Goma Unigom, chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte et analyse des plaidoyers pour la valorisation des résultats des recherches. Bonsoir professeur Augustin Mouessi.
Bonsoir monsieur Guy, bonsoir à tous les co-débatteurs et puis à tous les auditeurs en jour.
Bienvenue une fois de plus à tout le monde dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, nous parlons de la situation sécuritaire dans la partie sud du territoire de Lubero, au Nord Kivu, où plusieurs sources confirment l'avancée des rebelles du M23 après la chute de la cité stratégique de Kanyabayonga la semaine dernière. Kanyabayonga était en effet considéré comme le dernier verrou de l'armée congolaise face à l'avancée de ces rebelles vers Lubero et Butembo. Pour d'autres détails, on va écouter cet échange entre Marc Maro Fimbo, qui est en ligne depuis Beni, et Dona Madimba.
Marc Maro Fimbo, bonsoir.
Bonsoir Dona, bonsoir aux auditeurs et auditrices des Radio Capi.
Comment se présente alors la situation sécuritaire aujourd'hui dans la région depuis la chute de Kanyabayonga?
Il faut dire qu'après la chute de Kanyabayonga la semaine dernière, les rebelles du M23 semblent avancer à grands pas vers la partie nord du territoire de Lubero. Ils ont franchi Kaina, où ils ont même occupé la grande base militaire de FRDC de Kassando, avant de progresser hier dimanche sur l'axe Kasséré. C'est ici que ces rebelles ont trouvé une résistance de FRDC, soutenue par les Wazalendo, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le contrôle de la localité de Mbingi, chef-lieu du groupement de Batangi. La semaine dernière, les rebelles avaient conquis plusieurs grandes agglomérations du sud du territoire de Lubero, notamment Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Miriki, Kimaka, Luofu et Mirobwe. Ils sont actuellement signalés sur l'axe Kasséré-Busorobia à moins de 100 km de Lubero centre de Nomadima.
Avec cette situation sécuritaire, Marc Maro Fimbo, comment se présente alors la situation humanitaire dans ces cas?
La situation humanitaire est catastrophique, il faut dire comme ça, de l'aveu même des humanitaires. Beaucoup d'habitants ont fui Kanyabayonga pour Kaina, d'autres de Kaina pour Kasséré et Kirumba. D'autres encore se sont même retrouvés à Lubero centre. Certains déplacés de Kanyabayonga qui étaient à Kaina à 17 km ont décidé de retourner à Kanyabayonga car fatigués des mauvaises conditions de vie et sans aucune assistance humanitaire. Beaucoup dorment dans des écoles et dans les cours des églises de la place. Ils mangent difficilement après avoir effectué des corvées chez les autochtones. en échange de quelques vivres. Certaines églises de la place offrent aussi un peu de nourriture à ces déplacés qui fuient d'un endroit à un autre à la recherche d'un peu de sécurité. Ceux qui regagnent Kanyabayonga sont aussi motivés par le fait que leurs maisons sont visitées par des inconnus. Mais les personnes déplacées venues de Rutshuru et qui vivaient déjà à Kanyabayonga vivent un double calvaire maintenant avec l'occupation de Kanyabayonga par les rebelles du M23.
Y a-t-il alors une réplique éventuelle en prévision côté État congolais?
Pour l'instant, il est difficile de savoir quelles sont les dispositions prises pour la sécurisation de la population, étant donné que l'armée s'est retirée des localités occupées par les rebelles du M23. Mais toutefois, l'administrateur du territoire de Lubero indique que la situation est calme pour le moment à Lubero Centre. Les chefs-lieux du territoire vert où convergent des milliers de déplacés en provenance de Kirumba et dont certains prennent la direction des villages Azirona, Dona Madima.
Merci beaucoup Marc Marofimbo pour toutes ces informations et bonne soirée chez vous.
Merci Dona.
Merci à vous, Marc Marofimbo et Dona Madimba. Caroline Zanzou, je rappelle que vous êtes députée nationale élue des Beni Territoires au Nord Kivu. Vous êtes gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union Sacrée de la Nation. D'abord, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la chute de la cité de Kanyabayonga qui est passée vendredi dernier sous le contrôle de la rébellion du M23?
Merci, je crois que nous avons le même réaction parce que il n'y a pas que Kanyabayonga qui est passé dans le mardi 23, mais du moment où une partie de notre territoire national est occupée par l'agression rwandaise à travers ses alliés M23, nous ne pouvons qu'avoir un sentiment de déception, mais aussi comme Congolais nous sommes animés par les soucis de voir les forces armées de la République reconquérir tous ces espaces qui sont passés dans le mai de 23. Il est vrai que dans l'opinion, les gens considéraient Kanyabayonga comme un des grands verrous, pas le dernier verrou. Parce que on a perdu une bataille à Kanyabayonga, à Kirumba, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc nous considérons qu'il y a encore beaucoup de verrous qu'il faut faire et nous voudrions évidemment voir les phares d'essai se réorganiser le plus vite possible pour stopper d'abord l'avancée de M23 vers le grand centre commercial de la ville de Butembo, mais aussi organiser des offensives parce que nous avons quand même des accès qui peuvent nous permettre de reconquérir le plus vite possible les collines Sipromba Kanyabayonga, aussi aller vers Rutshuru, espérer que nous pouvons avoir raison contre le rebelle du M23 qui sont soutenus par les Rwandais. Ce qui est vrai, la situation humanitaire dans cette partie de la République, c'est compliqué depuis plus de 2 ans. Il y a des camps déplacés autour de Goma, il y a des camps autour d'autres coins de la province, même dans les zones où il y a le rebelle, parce que les gens de Masisi vivent dans les mêmes conditions, même à Rutshuru. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi des déplacés de guerre qui fuient les atrocités des ADF Nalu dans la partie de Beni. Très récemment, les premières incursions de rebelles à ADF qui ont endeuillé les territoires de Lubero. Donc, globalement, aujourd'hui, s'il faut parler de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu, elle est dramatique parce que la guerre ne produit pas des choses bonnes. La guerre ne fait qu'endeuiller la population, la guerre ne fait qu'appauvrir la population du Nord Kivu, la guerre ne fait que produire la mort. Et donc, s'il faut peindre le tableau de l'humanitaire, il y a des choses à déplorer. Même très récemment, avant-hier, hier, on a perdu des véhicules des humanitaires, on a perdu même des agents humanitaires qui étaient dans les équipes. Nous déplorons tout cela, nous condamnons, parce qu'en fait, l'ennemi nous a mis dans la pression quand ils ont pris Kanyabayonga, et nous souhaiterions que les compatriotes qui nous suivent ne puissent pas céder à la pression de l'ennemi, parce que nous devons résister. Nous avons l'obligation de résister, nous n'avons que la RDC comme pays, nous n'avons que les FARDC comme notre bouclier, en dépit évidemment de la défaite de Kanyabayonga et de Kirumba d'une façon consécutive.
Justement, M. Karli Nzanzu Kasivita, vous n'êtes pas expert militaire. mais vous êtes élu de là. Et avec les informations que vous avez, est-ce que vous essayez de comprendre comment, en dépit de tous les efforts, de toutes les énergies, de tous les sacrifices consentis pour verrouiller Kanyabayonga, les verrous est quand même tombé. Est-ce que vous comprenez pourquoi?
La guerre reste d'abord une guerre. La guerre reste du domaine de la stratégie, comme vous l'avez si bien dit, militaire. On peut perdre, mais aussi gagner. Moi, j'ai toujours dit, j'ai vu déjà, toutes les fois qu'on perd des villages, on s'acharne contre tel ou tel commandant. Mais j'ai dit, rappelé dans une réunion quelque part, qu'en fait, le pauvre Bahouma avait perdu Goma. Moi, j'étais là, j'étais ministre provincial. On avait fui, mais c'est le même pauvre Bahouma qui avait récupéré Goma en 2013. Je crois qu'il y a lieu d'espérer. Il faut remobiliser nos troupes. Il faut moraliser les FARDC pour que nous puissions tenir. Mais évidemment, cela ne nous dédouane pas de pouvoir évaluer pourquoi la stratégie dite de retrait stratégique, toutes les fois que les FARDC perdent le village, ils nous disent que c'est un retrait stratégique. Nous ne sommes plus d'accord avec cette stratégie. Je pense qu'il faut repasser la marche des ans après la chute de Bounagana et refixer les perspectives pour que demain nous ayons la paix dans cette partie de la République.
Voilà, après la cité de Kanyabayonga, c'est plusieurs localités qui sont tombées. Et, du coup, on est tenté, n'est-ce pas, de s'interroger sur l'intention de l'ennemi dans un contexte où on annonce une éventuelle rencontre entre le président Kagame et Félix pour pacifier, n'est-ce pas, pour apporter une solution pacifique à la crise de l'Est du pays. Et les intentions de l'ennemi peuvent être quoi? Se mettre en position des forces en vue des éventuelles négociations?
Mais
à votre avis?
De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Toutes les guerres répondent presque aux mêmes règles. Talk and fight, comme on dit partout. Je suppose que ça peut être ça, mais pour nous, Congolais qui souffrons de cette guerre, nous ne pouvons pas croiser les bras. Quant à ça, évidemment, comme République, il faut toujours avoir l'avantage contre l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous complaire en pensant que parce qu'il y a eu un son de cloche du côté du président Angolais que nous devrions croiser les bras. De toute façon, on ne peut pas négocier si on n'est pas en force. Non plus, on ne peut pas passer gagner aussi en diplomatie si on n'est pas fort. Donc nous devons continuer à donner de la force et de la vigueur à notre armée pour que nous ne perdions pas plus d'espace. De toutes les façons, comme je venais de le dire, le déplacé qui avait fui la guerre à Rutshuru, dans les Buitons, sont les mêmes déplacés qu'on a trouvés aussi à Kanyabayonga, y compris la population de Kanyabayonga, sont les mêmes qu'on a trouvés à Kirumba. C'est la raison pour laquelle vous aviez suivi dans un reportage que parmi eux, ceux qui ont fui Rutshuru, ceux qui ont fui Kanyabayonga, qui étaient à Kaina, ils n'avaient qu'un choix de pouvoir rentrer dans leur maison. C'est pas parce qu'ils sont d'accord avec l'agression, mais tout simplement, ils n'ont plus de choix à opérer. De Rutshuru jusqu'à Kirumba, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire à pied? Je crois que c'est la résilience. Mais c'est douloureux pour eux de rester sous contrôle de l'agression rwandaise.
Merci, Maître Hervé Diakès, porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Comment vous analysez cette avancée des rebelles du M23 dans la partie nord du Nord Kivu?
Je dois dire que j'ai été, comme tout le monde, sidéré, révolté. Et effectivement, nous ne pouvons pas laisser notre territoire envahi. Ça, c'est très clair. Néanmoins, nous devons analyser et tirer les conséquences pourquoi nous en arrivons là. C'est très intéressant ce que vient de dire l'honorable Carly Nzanzu à deux niveaux qui m'interpellent. Premièrement, c'est aussi le fait que notre propre population en arrive par résilience à préférer rester chez elle. Parce que c'est chez elle, après tout.
Sous occupation. Par résilience ou par lassitude?
Je pense que entre aller vers un camp des déportés où les conditions, nous venons de les reconnaître, sont totalement catastrophiques, les humanitaires le reconnaissent. Quel est l'essor de déplacer vers Goma? Quel est l'essor de déplacer vers Rutshuru? Dans quelles conditions vivent-ils? Nous avons vu plusieurs vidéos.
Ils n'ont pas des choix.
Nous avons vu plusieurs vidéos. Ils s'est plaignés. Ils n'ont fait l'objet d'aucun appui particulier. Ok. Donc nous n'allons pas politiser la question, mais nous devons reconnaître qu'à un moment donné, les gens se disent, ils préfèrent rester mourir chez eux, dans leur maison, plutôt, peut-être qu'à la rigueur ils pourront encore préserver quelque chose, plutôt que s'exposer à une mort certaine ou à une précarité tellement humiliante en quittant chez eux, qu'ils n'ont même plus aucune chance de savoir si un jour ils vont retrouver leur maison. Donc ici je suis très solidaire de mes compatriotes et dans les camps des déplacés, comme de mes compatriotes qui préfèrent garder la maison même sous occupation. C'est très facile depuis Kinshasa de les dénigrer, de les considérer comme s'ils avaient trahi, alors que d'une certaine manière, c'est peut-être nous qui les avons trahis et abandonnés. Donc je crois qu'il faut beaucoup de mesures. Quand je vois
donc, ils sont fatigués.
Mais, oui, je vois certaines attitudes des gens dans les réseaux sociaux en train de s'étonner que cette population soit restée. Je vois qu'ils ne savent pas c'est quoi la guerre. J'ai connu juste une portion de la guerre quand il y a eu la grande aventure du RCD de Mwanda jusqu'à Kinshasa et que j'étais en Banzangungu où nous sommes restés sous occupation et que...
En 98.
Oui, en 98 et qu'il y a eu à deux reprises l'aviation zimbabwéenne qui a largué des bombes à Banzangungu. Donc j'ai une idée de ce que c'est être sous occupation des troupes ennemies parce que nous étions sur un champ de bataille. Donc s'il y a quelqu'un qui a l'audace de me dire pourquoi tu es resté, je risque de perdre ma patience et ma politesse pour lui demander pourquoi l'armée est partie. C'est plutôt la vraie question. Donc ça c'est un volet. L'autre volet que le gouverneur a relevé, ce gouverneur honoré, a relevé aussi, a attiré mon attention. Parce que quel est en réalité ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi? Et le gouverneur dit, nous n'avons que ce Congo. C'est vrai, voilà pourquoi notre population reste. Nous n'avons que cette armée, les FARDC. Mais quels sont les signaux que nos autorités envoient par rapport à nos FARDC? Quand vous avez les commandants suprêmes qui s'est fait protéger par des étrangers, visiblement, alors que nous sommes dans un pays en guerre, nous nous posons des questions. Vous voyez, il faut à un moment donné qu'on se dise quels sont les signaux.
Le commandant suprême, il est protégé par les étrangers.
Nous l'avons vu au Katanga, nous l'avons vu avec des gens de peau caucasienne, comme on dit, pour ne pas dire des blancs. C'était très clair, on les a vus en train d'assurer sa sécurité. Alors que l'institution présidente de la République, au regard de la loi qui régit la garde républicaine, c'est une institution, c'est pas un individu, est protégée par une garde qu'on a créée, qui est la garde républicaine. Mais peu importe.
Et on est en guerre. C'est pas un bon signal pour vous.
C'est pas un bon signal. Mais attendez, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en votre armée.
Et en plus de cela, il y a quel autre facteur?
Bon, l'autre facteur ici, c'est... J'ai beaucoup apprécié ce que l'honorable dit. Il y a un peu trop de propagande. Je comprends, il est dans un camp politique où il ne peut pas se permettre de dire certaines choses. Mais en filigrane, j'abonde avec... Nous parlons du pays et de notre patrimoine commun. Nous avons plus de propagande que des réalités sur terrain. Pourquoi il y a ces décrochages de nos troupes? Vous avez beau l'habiller en parlant des replis stratégiques, le fait est que nous abandonnons du terrain... Nous abandonnons du matériel militaire et nos troupes reculent. C'est dû à quoi?
Donc c'est le matériel des FARDC qui alimente la rébellion, qui donne la force à la rébellion.
Quand nous décrochons et que décrocher implique qu'il faut quitter le plus vite possible, c'est un sauve qui peut. Et donc ça ne se fait pas un repli parce que derrière le terme repli stratégique, il y a une idée un peu en communication... que c'est une stratégie élaborée pour reculer et laisser un terrain à des troupes en vue de préparer la contre-offensive. Ce qui implique un processus de retrait ordonné.
du matériel, de troupes, etc., qui abandonnent progressivement l'interne. Mais quand c'est la débandade et les sauves qui peuvent, et qu'on appelle la reprise stratégique, non, parce que nous abandonnons du matériel. Mais écoutez, nos militaires sont des êtres humains, nous le voulons vivant pour qu'ils gagnent la guerre. Alors, donc s'ils doivent sauver leur vie, je comprends. Mais, permettez que je finisse mon idée, s'il vous plaît. Moi, et je crois beaucoup de compatriotes, nous commençons à nous poser des questions sur la nature exacte du narratif qui nous est donné dans ces conflits. Est-ce nous faisons l'objet d'une agression étrangère? Est-ce une guerre de conquête pour annexer une partie de notre territoire? Est-ce une guerre de pillage de nos ressources? Et dans ce cas, l'évolution de ces troupes devrait se concentrer peut-être vers les zones minières qui les intéressent? Où nous sommes, et vous avez lancé une autre hypothèse, nous sommes dans une avancée qui oblige nos autorités à négocier. Et à négocier quoi?
Et quelle est la réponse que vous donnez à tous ces questionnements?
J'aurais bien aimé vous donner une réponse, mais ce serait prétentieux de ma part, parce que quand je suis les narratifs, le gouvernement nous dit, et même l'honorable Nzanzu le répète, nous sommes agressés par le Rwanda. Très bien, nous sommes agressés par le Rwanda. Que veut le Rwanda? Le premier narratif qui nous a été servi, ça c'est depuis Mosée, ce n'est pas forcément l'Union sacrée aujourd'hui. Le Rwanda était dans une guerre de conquête pour annexer notre territoire. Donc nous résistons pour éviter qu'on puisse annexer notre... Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu une partie de notre territoire qui fait partie du Rwanda, ça il faut le dire. Après, il y a eu un autre narratif, c'était que on a mené des Tutsis sur notre territoire pour commencer à occuper des chefferies, etc. Même ce narratif n'a pas marché. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons reconnu que nous avons des compatriotes Tutsis, ou alors qu'on dise qu'on n'a pas des compatriotes Tutsis et qu'on en tire des conséquences. Et que de ces faits, ces compatriotes exercent le droit réservé à tout Congolais et qu'ils ne font l'objet d'aucune discrimination. C'est plutôt les narratifs rwandais pour justifier leur présence sur les territoires. Je crois même dans le discours du chef de l'État, il a dit en disant que les mensonges de ceux qui nous agressent, c'est de dire que nous serions en train de malmener des compatriotes.
Oui, mais au-delà de tout ça, avec cette avancée du M23 sur le terrain, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui espérer réactiver les processus de Luanda?
Alors, très bien. Là, je vais réfléchir en juriste. D'abord, il faut qualifier, parce que pour parler du processus de Luanda, il faut qu'on revienne d'abord sur les cadres qui lient les engagements de notre pays. Le processus de Luanda nous dit de pouvoir notamment négocier avec les forces insurrectionnelles locales. Hein. Si je me trompe, veuillez me corriger. Mais le président, dans son discours, ne fait aucune allusion aux forces d'insurrection locales. Il ne parle pas. Vous parlez du M23, ou de l'AFC selon le cas, etc. Le président parle de l'agression rwandaise. Donc nous sommes déjà dans un hiatus. Quand nous irons négocier ou pas, nous négocions sur quelle base? Avec quel interlocuteur? Le Rwanda nous dit qu'il ne nous agresse pas, c'est une affaire strictement congolaise. Nous disons, il n'en est pas question, c'est l'armée rwandaise. Sauf que aujourd'hui aussi, il est très difficile, en ce qui me concerne, de parler de cette agression sans impliquer l'Ouganda. Je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris que nous nous limitions à marteler l'agression rwandaise et fermions les yeux. Alors que Bunagana ne pouvait pas être prise comme entité sans la complicité ou carrément même l'appui de l'Ouganda.
Est-ce que le processus de Luanda a encore sa raison d'être aujourd'hui?
Écoutez, sincèrement, tout processus qui peut mener à la paix a toujours sa raison d'être. Maintenant, c'est à nous d'être conséquents, voyez-vous, d'être conséquents sur les accords que nous avions signés. Oui ou non, nous avons adhéré au processus de Rwanda? La question est oui. Oui ou non, nous avions adhéré au processus de Nairobi? La question est oui. Donc, même la qualification des acteurs, la qualification du conflit, l'identité des parties impliquées, nous avons signé des communiqués. Alors, c'est en tirer les conséquences. Aujourd'hui, est-ce que nous négocions avec le Rwanda, oui ou non? Sauf erreur de ma part, la position de la RDC, c'est non. Donc, la réponse...
Au bout d'un temps que l'armée rwandaise serait sur le territoire congolais.
Oui, donc là, c'est très clair, donc c'est non. Parce que le Rwanda dit qu'il n'est pas sur les territoires. Nous disons que le Rwanda est sur les territoires, ok? Et moi, je suis d'avis que oui, le Rwanda appuie les troupes qui nous agressent. Mais je me dis, on ne doit pas que se limiter au Rwanda, ce n'est pas logique. Et d'impliquer l'Ouganda. Mais après que nous ayons identifié tout ça, quelles sont nos capacités à répondre à cette situation? Merci. Et quelles issues nous nous proposons concrètement?
Merci, professeur Augustin Mouessi, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma Inigom, chercheur à Research Connect Giassi, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Quelle est votre lecture par rapport aux derniers développements sur les terrains des opérations dans les Grands Nord?
Oui, bien, merci. Guy, en fait, quand j'ai appris que Kanyabayonga venait de pomper, ainsi que d'autres villages, cela m'a permis de faire une petite comparaison et par rapport à l'évolution de la guerre, par rapport aux autres, à la conquête des villages ou cités antérieures. Et ma petite comparaison m'a permis de mettre l'accent sur un certain nombre des faits qui constituent ce que j'appelle la rupture, mais aussi d'autres qui sont pratiquement des constantes. Si je dois commencer par les ruptures, je tiens à souligner que, du moins, on a constaté que les FARDC ont résisté pendant au moins 30 jours. Elles ont même essayé d'adopter la stratégie de l'ennemi qui consiste à déborder. En tout cas, j'ai suivi un reportage à Radio Capi qui disait que les FARDC, pour essayer de stopper la progression des rebelles, avaient essayé de déborder. C'est à quoi recourt régulièrement les M23. Mais aussi, j'ai constaté que, à part cette résistance, les villages sont tombés à une grande vitesse, quoi. Donc, il a suffi que Kanyabayonga tombe pour que d'autres villages tombent immédiatement. Et donc, si on voit la distance qui sépare Kanyabayonga de Kaseye ou de Vermdingi, c'est quand même une longue distance. Et là, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a été fait en termes d'organisation de la base arrière, puisque c'est vrai, on a fait la guerre au niveau de Kanyabayonga, mais à mon avis, la base arrière devait empêcher à ce que d'autres villages suivent immédiatement Kanyabayonga, quoi, tombent immédiatement après Kanyabayonga. Et alors, ce qui concerne les constantes, c'est que le même narratif est revenu, c'est qu'il y a eu repli stratégique, il y a eu recul, et on a même doqué, on a même souligné aussi l'abandon de munitions, même les co-débatteurs venaient de faire allusion à ça aussi, celui qui vient de parler il n'y a pas longtemps. Et là, justement, ces reculs-là, les reculs, tous ces éléments-là me permettent de poser un certain nombre de questions à ce qui concerne la planification de la guerre, de cette guerre-ci, puisque depuis que Bounagane a été conquis par la rébellion du M23, il y a eu quand même assez de moments, beaucoup d'épisodes qui se sont passés, et à mon avis, la perte des cités antérieures ou des villages antérieurs aurait dû permettre à nos forces de défense et de sécurité de tirer les leçons et d'essayer d'améliorer, n'est-ce pas, ces interventions à terme des stratégies. Et par rapport au fait que l'armée a résisté, ce qui était déjà un signe positif, qui semblait aller dans le sens de ce qu'on appelle des éléments montés à puissance des FARDC. Et là, je me dis quand même que si je dois comparer au foot, c'est qu'on dit toujours que la meilleure, n'est-ce pas, de défense, c'est l'attaque. Et là, ça me fait penser justement à la stratégie qu'on a souvent remarqué, c'est que nos FARDC, souvent, elles essayent de défendre, effectivement, de se défendre. Mais souvent, j'ai comme l'impression que les cas où elles essayent d'attaquer, poursuivre l'ennemi vraiment sur les zones conquises, ce sont des cas qui sont rarement, en fait, médiatisés. Peut-être que ça se fait, mais ce n'est pas suffisamment médiatisé.
Professeur Mouetti. Donc,
le fait que l'armée soit restée longtemps à Kanyaboya ou tenter de résister, c'était déjà une bonne chose. Mais peut-être que si on avait attaqué, poussé, essayé de contraindre l'ennemi à reculer, peut-être que la cité de Kanyabayonga et les autres cités et même villages ne seraient pas trompés.
Oui, professeur Mouessi, est-ce
aussi,
que...
je me pose aussi la question en ce qui concerne donc...
Mouessi, professeur, oui, mais est-ce que la réponse... Est-ce que la réponse à oui. toutes ces questions-là, ce n'est pas aussi le fait qu'il y a coexistence de plusieurs forces sur le terrain? Vous avez les Ouazalendo d'un côté qui ont leur commandement, vous avez les FARDC qui ont le leur, et cette multitude de commandements ne pourrait pas être à la base, n'est-ce pas, des difficultés que nos forces auraient pour accomplir leurs tâches sur le terrain?
Bon. En fait, c'est pas une hypothèse qu'on peut exclure, mais à ce que je sache, on n'a pas encore appris, mais l'armée ne sait jamais, n'a jamais exprimé des plaintes qu'il y ait eu peut-être incompréhension, mais c'est pas exclu. Et c'est une question qu'on peut se poser. Donc, est-ce que cela pourrait-il être lié aussi à une certaine faiblesse au niveau de la coordination des forces, ou même peut-être une certaine incompréhension aussi dans les commandements? Ce sont des questions qu'on peut se poser et qui valent la peine d'être posées. Et ces questions peuvent être liées aussi à la coordination, au management, en fait, à la conduite de la guerre, avec ce que cela implique, la gestion de la logistique, la gestion, la communication entre les différents acteurs, les différents intervenants dans la guerre. Tout ça, ce sont des questions, à mon avis, qui valent la peine d'être posées et dont les réponses peuvent essayer de nous aider à comprendre, en tant que chercheurs, en tant qu'observateurs extérieurs, ce qui pourrait être à la base, justement, de cette situation qui a contraint des milliers de personnes à fuir leur maison et leur milieu de vie.
Oui.
Et donc, qui sont... Des actions, en fait, qui sont lourdes des conséquences sur le plan humanitaire, comme le batteur l'a dit.
Oui, professeur, un autre facteur, c'est le fait que, on le dit souvent, hein, les deux forces qui ont un ennemi commun, M23-RDF, se regardent en chaîne de faïence, ne se font pas confiance aux Ouazalendo et FARDC, et des fois même il y a même affrontement entre ces deux forces-là. Est-ce que ça peut aussi être une des explications pour expliquer les fiascos que nous connaissons sur le terrain?
Oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on regarde l'avènement de Ouazalendo, je dirais le fait qu'il y ait eu ce phénomène Ouazalendo qui semble bénéficier vraiment de la bénédiction des populations de la région, c'était déjà, n'est-ce pas, une participation, je dirais, de la population locale, ou du moins un appui qu'elle voudrait bien apporter aux FARDC, qui sont largement soutenus par une grande partie de la population. Mais est-il vrai que... On peut se poser la question de savoir si... c'est l'apport de Ouazalendo serait bien reçu aussi par les autres intervenants, pas tous les intervenants de la guerre. Il n'est pas exclu que peut-être des acteurs voient justice par Ouazalendo, pas de voir comme des intervenants un peu gênants, quoi. Et cela peut effectivement aussi parfois peut-être déranger et faire en sorte qu'il n'y ait pas une franche collaboration, encore que il y a une justice entre eux et les FRDC, parce que les Oisaliens n'ont pas eu la formation pour la plupart, et donc ce sont des acteurs des Alsaciens qui interviennent dans la guerre.
Merci.
Et il n'est pas exclu qu'ils ne soient pas suffisamment consommés. C'est à la base peut-être parfois d'une certaine incompréhension et se manifester.
Merci pour ça.
Ferme justement la coordination de la guerre.
Merci.
Qui devrait en principe arriver à repousser les ennemis. En fait.
Merci professeur. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler hein, pour donner leur point de vue. Et monsieur Karine Zanzou, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la province du Haut Lomami à Luena.
Charles Mpoudika, à Luena, province du Haut-Lomami. À mon avis, l'option militaire pour mettre fin à cette guerre injuste a montré ses limites, d'autant plus que l'M23 monte de plus en plus en puissance. Il est acceptable d'essayer avec des négociations pour permettre à la population de ces coins de retrouver la paix tant souhaitée.
Oui, monsieur Charlie, plutôt Kali Nzanzu Kasivita.
Ah oui, merci. Au fait, nous sommes en guerre. Je crois que... Maître Diakès a bien dit, on ne peut pas évidemment politiser ce débat sur l'agression de notre pays. Nous devons être à même de faire un débat républicain sans passion, parce que nous sommes dans l'impératif de trouver des solutions pour que notre pays vive en paix. Ce qui est vrai, le président de la République, le gouvernement de la République avait déjà dit à l'époque que nous avons trois options pour résoudre la question de la crise sécuritaire. Le président de la République avait rappelé à la nation que nous avons l'option militaire, nous avons l'option diplomatique et l'option politique. Et je ne crois pas que toutes ces options s'excluent les unes à l'autre. Donc on peut les combiner cumulativement. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de maintenir la RDC debout. Ce qui est important, c'est de nous permettre évidemment de ne pas céder au chantage qui vont toucher l'intégrité de notre pays. Mmh. Et de toutes les façons, nous sommes de pays voisins. Et le président de la République l'a toujours dit, il peut rencontrer le président rwandais. Et je crois que c'est ce qu'a dit même le président de l'Angola, que ben, s'il y arrive, on peut y avoir des discussions entre deux chefs d'État. C'est normal, la diplomatie. Mm-hmm. Moi, je crois qu'il est important que chacun donne ce qu'il a compassé et que ça entre dans les inputs de la recherche et de la paix. Nous devons maintenir notre armée, parce qu'en fait, même si on négocie aujourd'hui, ça peut arriver, mais le pays va exister avec toutes ces menaces. Et donc, nous avons intérêt à construire notre armée, nous avons intérêt à
et donc, il faut des solutions durables.
Il faut des solutions durables parce que demain, on peut revenir en charge. J'ai vu la guerre en 2009-2008 avec les Saint-De-P. J'ai vu cette même guerre en 2012 avec le M23. Aujourd'hui, avec le même M23 sous format RDF pratiquement engagé. Donc, nous avons l'obligation de construire notre système de défense et de défendre les lignes. Nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser les choses pourrir, tout simplement parce qu'il y a une option qui peut nous sauver.
Merci. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Litiza Kulimu Chevari, c'est depuis Bukavu, au sud Kivu. Les FARDC engagés dans la résistance contre l'avancée exponentielle des agresseurs au nord Kivu méritent le soutien de tout un peuple pour la bravoure dont ils font montre. Que les cités tombent une après l'autre n'étonne personne. Les frontières RDC-Rwanda n'existent plus de ce côté, faisant que les FARDC fassent front contre l'armée de tout un pays, le Rwanda, en un coin restreint à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, m'appuyant à l'adage de nuit de temps, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. J'interpelle le chef de l'État, de revoir urgentement toute la chaîne de commandement de l'armée, de motiver les jeunes volontaires pour la défense de la patrie d'Iwasalendo qui mettent leur sang à contribution. Savoir que l'esprit d'affairiste de certains qui anime certains commandants de la FRDC ne continue pas à conspirer contre tout l'avenir de toute une nation.
Mais je suis parfaitement en phase avec mon compatriote, parce qu'effectivement, même ce qui a été donné comme analyse sur la bravoure de notre armée est indiscutable. Donc beaucoup pensent que les problèmes sur terrain sont davantage liés soit à une question de stratégie et de commandement, de communication et de collaboration, voire des logistiques. Mais quand je vois l'armement qui est resté lors du repli stratégique, je me dis, mais nous avons de l'armement. Donc, c'est-à-dire que la dotation suit. Mais est-ce que la dotation en armement est-elle suivie de celle qui est importante pour le moral des troupes? C'est-à-dire leur prise en charge intégrale, leur ration et aussi leur prime. Et est-ce qu'on intègre... Voilà. Je ne suis pas stratège militaire, mais je sais au moins une chose. C'est lorsque les troupes ont été exposées au combat pendant un certain temps, il faut qu'à un moment donné, elles soient renouvelées par des troupes plus fraîches. Est-ce que ceci, c'est pourquoi d'ailleurs il existe des bases militaires? Tous ces systèmes-là, c'est qu'à un moment donné, on le remplace par des éléments plus frais. Pourquoi? Parce que la routine dans le terrain peut aussi être un élément qui vous fatigue et qui vous permet plus d'avoir de la créativité pour d'autres stratégies. Est-ce que cela est fait avec nos troupes? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que, une fois j'ai vu, mais ça peut aussi, comme on nous a dit, il ne faut pas tout voir dans les réseaux sociaux, mais nos troupes ont l'habitude de se faire faire des vidéos. Et des fois, vous voyez qu'elles sont en train de cuire des haricots au front. C'est vraiment un non-sens total, parce que on n'a pas le temps de faire de la cuisson des haricots. Et c'est pourquoi les conserves ont été conçues pour les troupes militaires, pour leur permettre une capacité de pouvoir se nourrir facilement et avancer. Donc, effectivement, notre compatriote fait même un diagnostic, apparemment. Soit, effectivement, il y a certaines personnes qui s'enrichissent et ou qui, dans la logistique des troupes qui permet de ravitailler les nôtres, tout n'arrive pas à temps et les conséquences sont là, et ça, c'est dangereux. Effectivement, il incombe au chef de l'État.
Pourquoi on n'arrive pas à solutionner tous ces problèmes? Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on évoque...
C'est de l'impunité, carrément. Alors, aussi, une chose, voilà, c'est, on ne politise pas, mais à un moment donné, on est bien obligé de se dire que il y a deux fois du folklore dans cette manière de mener une question aussi sérieuse qui nous sidère. D'un côté, à un moment donné, on nous avait dit, quand on aura un ministre comme Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a un passé rebelle, donc ça va mettre de l'ordre dans les troupes. Mais je crois que c'est sous son ministère que Bounagana est tombé, je crois. Donc,
est-ce que nous avons un problème d'hommes, ou c'est plutôt un problème qui est lié au système?
En tout cas, on n'a pas un problème des troupes. Nous n'avons même pas un problème de résistance de la population civile. Si nous avons déjà, on a eu des maïmaï, aujourd'hui on a des wasalèves, donc il est une chose
certaine. C'est le système qu'il faut repenser.
C'est le système qu'il faut repenser, et nous avons toujours résisté à cette obligation de reformer notre système de défense. Lorsque vous posez les problèmes de manière dépassionnée, on vous dit, ah oui, mais on a élaboré une loi de programmation, comme si une loi de programmation fait trembler les troupes agresseurs sur terrain. Merci. Lorsque vous dites, écoutez, de quelle manière on organise les passations en grade dans l'armée, est-ce qu'on promeut les meilleurs, est-ce que sur terrain on tient compte quand même d'une certaine expérience, d'une certaine formation, d'une certaine coordination et d'un passé, et comment on peut se dire que peut-être que les troupes ne sont pas renouvelées suffisamment à temps, et nous avons des gens ici qui ont des escortes avec des militaires ici dans la capitale, alors qu'ils pouvaient être beaucoup plus utiles au front.
Merci.
Donc c'est des questions qu'on se pose.
Merci, professeur Augustin Mouessi. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
C'est Kishima Albert depuis la ville-province de Kinshasa. À mon avis, La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays mérite une mobilisation générale pour barrer la route à M. Paul Kagame qui, à Mordicus, rêve toujours l'annexion de notre parti de l'Est au Rwanda. Et à nos autorités, elles doivent également changer leur mode de commandement sur les lignes de front. Car jusqu'à preuve du contraire, nos forces n'attaquent pas régulièrement les ennemis, mais attendent qu'elles soient attaquées pour riposter selon certaines lamentations de nos confrères Ouazalendo. Et en plus, comment se fait-il que notre force armée, constituée de plusieurs partenaires, ne parvienne pas à contenir l'ennemi?
Professeur Augustin Mouesti, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de cet auditeur-là, mais aussi, à votre avis, est-ce qu'il y a des recommandations que vous pouvez faire aujourd'hui à l'endroit du gouvernement pour essayer de sortir de cette situation des guerres dans le Nord Kivu?
Oui, effectivement, mes recommandations vont dans le sens où tentent de répondre un peu aux préoccupations de l'auditeur, ou au moins rejoignent en fait ce qu'il a dit. C'est que la mobilisation, je peux dire qu'elle est déjà là, mais la mobilisation, c'est aussi revoir un peu l'attention du gouvernement, de la santé nationale qui a formulé des recommandations lors de la dernière plénière à guise de mention de formation. Mais la synergie, disons, l'articulation, l'adéquation entre les différentes recommandations et les réponses, je pense que de ce côté-là, il y a encore assez de soucis parce que il y a toujours les mêmes recommandations qui reviennent, par exemple, repenser la chaîne des commandements, la relève de certains militaires qui peut-être ont vécu longtemps dans cette situation de traumatisme. Évidemment, il n'appartient pas à l'armée ne peut pas dire qu'on a relevé des militaires, mais il est quand même, on peut quand même remarquer, nous qui observons de loin, que il y a des noms des commandants qui reviennent toujours. Soit un commandant, il est à Beni, quand il n'est plus là, on la voit à Ituri, après Ituri, il le vit au sud Kivu, et après il le vit au nord Kivu. Et là, à mon avis, ça peut quand même causer problème, quoi. Je suis tenté de dire que on devra nommer des commandants sur base d'un certain nombre d'objectifs, et comme on les fait comme un coach les fait pour un match, il ne peut pas attendre longtemps lorsque les résultats ne sont pas là. Ça veut dire que lorsque un commandant ou des commandants n'ont pas fait leur preuve et qu'on a conduit des villes sous leur commandement, je crois que la réaction devrait être très rapide. En se disant, on n'a pas un seul général, parce que l'armée congolaise a beaucoup de généraux. On peut toujours essayer de nouveaux généraux et voir ce que ça peut donner, puisque là, pour la guerre, on doit viser vraiment des résultats immédiats.
Mais voilà, en même nous sommes professeur Augustin Mouesti.
Je l'avais d'ailleurs déjà dit.
Professeur Augustin.
Il faudrait que l'armée soit en mesure d'attaquer aussi.
Professeur.
Oui.
Oui, nous sommes à la fin de l'émission. Oui, vous allez aussi conclure. Hein. C'est quoi votre mot de la fin?
Je vous capte. Oui, le mot de la fin, c'est qu'il faudrait que l'armée, disons, moralise encore une fois les militaires, qu'on les organise, pour éviter en fait les pires, pour éviter que la rébellion ne progresse jusque au chef-lieu du territoire de Lubero, même à vue de Butembo, pourquoi pas à Beni, ce qui ne serait qu'aggraver en fait la situation.
Merci, Monsieur Kalinganzou.
Bonne évaluation et des mesures correctives.
On a compris. Merci beaucoup, merci Monsieur Kalinganzou Kasivita. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour, n'est-ce pas, arrêter la progression de la rébellion?
D'abord,
elle ne fait que progresser. Il faut faire quoi? Il faut sauver la situation sur le terrain.
En urgence, nous devons réorganiser vite les FARDC pour arrêter l'hémorragie. mais nous avons dit aussi que nous sommes dans l'obligation de changer nos stratégies militaires. Nous devons les changer impérativement. Nous devons
on les change pas. On a une certaine réticence.
Je ne parle pas des stratégies. Évidemment, moi je ne parle pas des individualités.
Est-ce qu'il y a un prix à payer pour changer de stratégie? Parce qu'on le dit depuis toujours, c'est une
tout
chanson.
Mais
on n'arrive toujours pas à repenser les stratégies.
Tout à fait, on doit le faire. Nous sommes dans l'obligation de le faire. Même au niveau de la diplomatie, j'ai dit tout est lié. Pour réussir à l'interne, nous devons aussi changer notre ligne diplomatique pour se rassurer que nous aurons du soutien dans tout ce que nous allons faire au niveau interne. Nous avons l'impératif ultime aujourd'hui de ne pas permettre que la rébellion puisse gérer plus de 5 millions d'habitants déjà dans l'espace qu'ils contrôlent. C'est une richesse énorme qui pourra permettre à la rébellion d'aller au-delà. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans l'obligation de repasser nos stratégies militaires.
Merci, Hervé Diakité. Quelle est votre conclusion? Et comment faire pour sauver la situation aujourd'hui?
Je crois que lorsque l'honorable parle du triptyque diplomatique, militaire et politique, c'est là où nous devons être conséquents. Sur le plan politique, nous ne pouvons pas être plus forts à l'extérieur que nous ne sommes à l'intérieur. Aujourd'hui, sur le plan politique, notre pays est totalement divisé. La légitimité des institutions est remise en cause et c'est même l'une des questions qui alimente les prétextes des
remise en cause par qui?
Mais d'abord par nous-mêmes de l'opposition. Nous savons la manière chaotique dont nos autorités ont été élues avec des machines à voter. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que sur les plans politiques, avec des assemblées staliniennes, que 80% des membres d'une même famille politique, nous sommes dans un régime démocratique sérieux. Donc vous croyez que nous avons des sérieux problèmes politiques déjà à l'interne. Ça ne nous rend pas suffisamment forts pour affronter des conflits extérieurs.
Il faut renforcer la cohésion nationale.
C'est absolument nécessaire, parce que nous ne pouvons être derrière un chef auquel nous croyons. Mais si quelqu'un nous a fait un braquage électoral et qui après nous appelle à la rescousse, nous y venons très lentement, surtout lorsqu'on sait qu'on est dans un régime aujourd'hui où les opposants ne sont pas toujours en mesure de s'exprimer et certains sont obligés de s'exiler. Et qu'on doit vous dire, si vous n'êtes pas d'accord, allez rejoindre Nanga. Ce n'est pas une manière de fonctionner. Et sur le plan diplomatique, revoir. Parce que nous sommes partis à l'EAC, alors même que nous n'avions aucun intérêt. Et à l'époque, nous les avions dissuadés de les faire. Donc aujourd'hui, nous devons connaître qui sont nos vrais alliés pour pouvoir au moins peser dans les résolutions et dans les négociations. Sur le plan militaire, il faut reformer notre armée, arrêter avec le clientélisme dans la promotion des gens dans l'armée et sanctionner là où il est faut, mais sanctionner partout. Merci. Et savoir aujourd'hui qui gère réellement les fonds affectés pour la prise en charge de nos militaires au front.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Caroline Zanzoukasevita, Eve Diakese et professeur Augustin Mouessi d'avoir accepté d'y participer. Merci également à Dona Madimba qui l'a réalisé, Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation des témoins Chimanga et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite au programme sur Radio Capi.